Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 7 du ITCast du 20 février 2015. Épisode spécial administration des systèmes avec Configuration Manager et Intune, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Pape, PFE chez Microsoft France et qui est spécialiste de ces technos. Il nous parlera du passé, du présent et du futur de ce sujet qui est au cœur des métiers de l'IT. Et comme nous sommes une semaine après la fin des Tech Days, on va commencer par les sessions que Stéphane a animées autour de Configuration Manager. Donc tout de suite, l'entretien avec Stéphane qu'on a en fait enregistré hier jeudi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Bonjour, on est le jeudi 19 février 2015 et puis je suis en ligne avec Stéphane Pape. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pascal.
Stéphane,
bonjour à tous.
Ouais, Stéphane qui est ce qu'on appelle un PFE chez Microsoft France. On va en reparler un petit peu, Stéphane, hein, de ton métier un peu plus tard. Mais avant cela, on va parler un petit peu des Tech Days qui se sont terminés il y a exactement une semaine.
Oui, c'était la semaine dernière, effectivement.
Voilà. Et puis, une fois qu'on aura parlé un peu de tes sessions, et puis rapidement de mes sessions également qu'on a eu l'occasion de faire au Tech Days, ben on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, puisqu'il s'agit de la gestion des systèmes et des clients avec des produits comme System Center Configuration Manager ou Microsoft Intune, qui sont, je crois, ta grande spécialité, Stéphane.
Eh oui, depuis très longtemps, oui.
Voilà, donc on va reparler un peu de tout ça et puis on fera un peu d'histoire également, puisqu'on est, je crois, un peu de la même génération. Hein. Donc, commençons par les Tech Days. Stéphane, tu as fait quelques sessions comme moi au Tech Days. Et j'ai vu que tu avais participé donc à 2 sessions qui étaient dans le track, dans le domaine mobilité et environnement de travail. Et ces 2 sessions concernaient d'ailleurs Config Manager, donc System Center Configuration Manager. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots?
Alors oui, bien sûr. La première session que j'ai animée, c'était la session sur le futur de Configuration Manager, donc qui aujourd'hui on l'appelle Configuration Manager V-Next. On verra comment ça s'appellera, comment ça va s'organiser dans les jours, dans les mois à venir. Je l'ai animée plutôt, j'ai laissé beaucoup Jean-Sébastien Duchesne, qui est MVP Client Management, donc qui est reconnu par Microsoft comme étant quelqu'un qui connaît et qui travaille autour de ce thème-là depuis pas mal de temps. Il maîtrise bien le sujet, il a beaucoup parlé, il a construit la présentation, qui n'était pas quelque chose de très très facile à faire, parce que on avait essayé d'obtenir le droit de dévoiler quelques éléments dont on avait eu connaissance dans les semaines précédentes, et on n'a pas eu l'autorisation de dire grand chose de nouveau. Nos collègues américains, maintenant une sorte d'embargo sur la communication du futur de cette version de Configuration Manager. Donc on a fait avec ce qu'on avait sous le bras. On avait pas mal d'informations qui avaient été communiquées en novembre dernier lors des TechEd US et européens. Et puis après, il y avait eu quelques communications du groupe produit à travers des articles de blog. Bon, tout ça, ça nous a permis quand même d'avoir une présentation assez riche. J'ai vu les commentaires de gens qui disaient que on avait parlé essentiellement de BIOD, de tout ce qui était plutôt gestion des périphériques des clients, au sens les ordinateurs des utilisateurs qui viennent se greffer dans le domaine du professionnel. Ce qui n'était pas tout à fait exact. Moi, j'ai considéré qu'on avait assez bien équilibré le thème entre vraiment la gestion des périphériques d'entreprise et la gestion des périphériques personnels utilisés dans un cadre professionnel. Donc ça, c'était un bon équilibre. On a pas mal présenté d'informations dans ces deux domaines-là, sachant que, oui, certes, le grand thème, la grosse évolution de Configuration Manager en ce moment, c'est vraiment la gestion de tout ce qui est périphérique mobile. Et donc, il y avait une partie de la présentation sur la jonction, la possibilité de gérer des périphériques mobiles depuis Configuration Manager avec Microsoft Intune, qui est une solution cloud qui permet de gérer les périphériques mobiles. Donc ça, c'était le gros de la présentation. On a eu une question sur le calendrier. Donc, grosso modo, on peut le rappeler, c'est qu'on attend une version bêta pour ce premier semestre de l'année 2015. Et puis, on attend une version qui sera finalisée pour le moment de la sortie de Windows 10. Donc ça, on a promis que les deux produits sortiraient en même temps, comme on l'a fait déjà dans les années passées sur les précédentes versions de Configuration Manager.
D'accord, donc on est synchronisé avec la sortie de Windows 10, donc l'OS client, et pas avec la sortie du serveur, qui sortira, lui, plus tard, en 2016. Hein, d'après.
Oui, on a annoncé que ça sortirait en 2016. Ce Configuration Manager, probablement au moment de la sortie de la version serveur, aura peut-être un correctif, quelque chose comme classiquement on le fait pour supporter les versions serveur. Mais pour la partie gestion complète de Windows 10, on aura une version définitive de cette prochaine version de Configuration Manager. D'accord. Ce qu'on avait annoncé, qu'on a répété quand même pendant la présentation, c'est qu'on n'aura pas besoin pour la partie gestion de Windows 10 pure d'avoir cette dernière version. On pourra très bien, c'est même assez surprenant alors que Configuration Manager 2007 est en phase étendue de support, on aura un correctif pour 2007 pour faire la partie juste gestion d'ordinateurs sous Windows 10. Par contre, pour le déploiement d'ordinateurs sous Windows 10, il faudra être au minimum en Configuration Manager 2012 ou 2012 R2 ou cette future version pour tirer complètement parti des possibilités de déploiement d'OS Windows 10.
D'accord, donc c'est une assez bonne nouvelle puisque ça veut dire que quand Windows 10 sortira, quelle que soit la config d'administration qu'on a, la version de Config Manager, on aura la possibilité de gérer ces postes.
Oui, on va les gérer sans aucun problème avec les versions actuelles, y compris celles qui sont en phase étendue de support.
Voilà, et de ton expérience de par ton métier, nos clients en France sont plutôt majoritairement en Configuration Manager 2012 ou 2007 ou...
Alors, on est un peu décalé quand on parle des clients chez lesquels on intervient, parce que les clients qui ont des contrats de support premiers auprès de Microsoft, c'est plutôt les très gros clients français. Ces clients-là, ils évoluent à un rythme beaucoup plus lent que certaines petites entités, beaucoup plus petites. Donc, on a encore quand même quelques clients. Mon client principal chez qui j'interviens très régulièrement chaque mois est encore en 2007 avec un début de déploiement de 2012. On a quelques grands clients quand même qui sont sur 2012. On a eu la chance d'avoir en France un client qui était dans le programme bêta de Configuration Manager 2012, donc qui continue à avancer, qui continue à faire évoluer le produit, à redonner des informations sur l'évolution du produit. Tout ça, c'est des bonnes informations qui remontent vers le groupe produit. Chez les clients, on trouve de tout, mais on a un panel de clients qui sont sur 2007, 2012, plus de 2012 natif, plutôt du 2012 SP1, du 2012 R2 également. Et puis on espère assez rapidement avoir des prochaines versions parce que la mise à jour ne devrait pas être trop compliquée pour les clients qui sont déjà en 2012 SP1 ou R2.
Ok, si on veut revoir ta session sur le futur de Configuration Manager, est-ce qu'elle a été enregistrée par hasard?
Alors j'en suis pas sûr, j'ai un doute là-dessus. Cette session sur le futur de Configuration Manager, elle n'était pas marquée comme étant enregistrée. Maintenant, il y avait quand même un technicien dans la salle. Donc, actuellement, elle n'est pas disponible. Je ne sais pas si elle va être rendue disponible. Tu as peut-être plus d'informations de la part des organisateurs des Tech Days sur cet aspect-là.
Je n'ai pas sous la main la liste des sessions enregistrées, mais si elle n'était pas.
Je sais que la nôtre n'était pas. Non, elle n'était pas marquée comme étant enregistrée.
Donc, en tout cas, le PDF de la présentation sera mis à disposition, ça c'est sûr.
Oui.
Je sais pas si toi tu le mets à disposition par ailleurs, par ton blog ou quoi. En tout cas, on mettra tous les pointeurs nécessaires dans l'article lié à ce podcast, ça c'est clair. Y compris peut-être le site de Jean-Sébastien Duchesne qui est assez complet également, hein, assez intéressant. Donc ça vaut le coup d'aller le regarder également. Donc on ne sait pas si ça a été enregistré. Deuxième session que tu as faite, la sécurité dans Configuration Manager, qui est un sujet, la sécurité, c'est un sujet qui m'intéresse également.
Oui.
Donc j'étais doublement intéressé par ça.
Mais oui, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années parce que j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend des points de vue, mais d'intervenir chez pas mal de clients qui ont eu des petits problèmes, des petites crises de sécurité. Ah. Et puis, très souvent dans les clients qui font leur projet sur Configuration Manager, on a très souvent maintenant la demande de dire « c'est bien, vous mettez un produit qui peut potentiellement faire pas mal de dégâts si on en prend le contrôle. Donc comment on peut le sécuriser? Comment on peut faire en sorte d'éviter des gros problèmes ?» Il y a un certain nombre de bonnes pratiques que j'ai décrites dans cette présentation, de manière à faire en sorte qu'on mette la barre suffisamment haut vis-à-vis de la sécurisation de Configuration Manager. Il y a un exemple concret qui est révélateur, c'est très souvent les clients disent vous avez un agent sur tous les postes qui fonctionne en local système, c'est pas bien. Oui, c'est pas une bonne pratique. On recommande aux clients d'avoir le minimum de services qui fonctionnent en local système. On a bien organisé le découpage des services de Windows pour arriver à faire en sorte qu'il y ait le minimum d'activités qui soient en local système. Et malheureusement, notre agent Configuration Manager, il doit obligatoirement être en local système, et j'ai expliqué un peu les raisons pour lesquelles il était dans ce mode de fonctionnement. Et puis surtout, il y a des évolutions dans la manière dont on fait l'architecture des infrastructures Configuration Manager. À partir du moment où on commence à changer la manière de concevoir les architectures, on a besoin de réfléchir derrière à la manière de déléguer les droits d'utilisation dans Configuration Manager, en particulier avec cette notion que pendant 20 ans, on a conçu des architectures en disant un site primaire, c'est le point de départ pour faire de la délégation. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut changer les habitudes, les raisonnements sur lesquels on construisait nos architectures et aborder de manière beaucoup plus détaillée la manière de déléguer.
D'accord. La délégation, c'est toujours un sujet important pour l'administration. Hein. C'est
clair. Ouais.
Enregistrer celle-là, session ou...
pas plus. Maintenant, celle-là, je pense que dans la présentation telle que je l'ai fournie pour qu'elle soit mise sur le site des Tech Days, il y a quasiment dans les notes des diapositives, il y a quasiment tout le discours que j'ai pu dispensé lors de la session. Donc on a quasiment la totalité des informations. Si besoin est, peut-être qu'un jour, si j'ai un petit peu de temps, je réenregistrerai cette présentation et puis je la mettrai à disposition quelque part pour rajouter peut-être des éléments de dernière minute, des éléments auxquels je n'avais pas pensé et qui me sont venus pendant la session, des choses comme ça. Ça peut arriver.
Bon, deux belles sessions sur Config Manager, de la vraie infra et de la vraie administration comme on aime bien. Moi, j'ai fait personnellement une session concernant un petit peu de façon connexe l'administration, puisque j'ai participé à une session sur PowerShell V5. Dans Windows 10, entre guillemets, mais ça concernait également la partie serveur et l'administration, quoi.
Oui, j'étais dans la salle, je t'ai vu.
Donc j'ai fait ça avec Fabien Dibault, qui est notre MVP favori sur PowerShell, que d'ailleurs j'avais interviewé sur ce même podcast au mois de décembre, si je me souviens bien, vers le mi-décembre. Et donc, on a parlé de PowerShell V5 et il y a beaucoup de nouveautés très intéressantes, notamment au niveau de DSC, au niveau du langage lui-même, avec la notion de classe. Et puis, beaucoup d'améliorations également au niveau des outils, l'ISE, la ligne de commande.
Ouais, le copier-coller.
Le CTRL-C, CTRL-V, quoi.
Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ?
C'est pas directement lié à PowerShell, mais c'est la console.
Ouais.
Et c'est vrai, quoi. Ça fait rigoler, mais c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on attendait ça, quoi.
Ouais.
Moi qui vis dans la ligne de commande dans Windows, plus que dans l'interface graphique, comme on dit, hein, c'est peut-être un détail pour vous, mais. et puis qu'est-ce que j'ai fait qui a un peu de rapport, j'ai participé à deux sessions sur Windows Server VNext, donc ça n'a pas directement du rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, mais ce sont des serveurs qu'il va falloir administrer. Mais j'ai participé dans ces sessions-là de façon un petit peu relativement mineure. C'était surtout mes collègues Stan et Arnaud qui officiaient.
Tu as dû assister à la session générale de Bernard.
J'ai assisté à la plénière, aux trois plénières, puisque la première dans la salle, la deuxième sur scène et la troisième dans la salle. Et d'ailleurs, dans la deuxième, j'ai parlé un peu de Intune, donc un des sujets d'administration également, gestion des postes et tout ça. Plus dans un esprit dont on parlera peut-être tout à l'heure dans l'évolution des techniques de management. Donc dans l'idée de faire du bring your own device, de la gestion de mobile, donc du MDM, mais également ce qui vient maintenant dans Intune et bientôt dans SCCM, je crois.
Oui.
Le MAM.
Le MAM, la gestion des applications et pas simplement la gestion des périphériques.
Donc c'est une nouvelle techno assez intéressante de pouvoir directement contrôler le comportement des applications et non pas uniquement du périphérique. Ouais. Donc celles-là sont déjà en ligne, puisque les plénières, tout ce qui était retransmis, disons, à la Tech Days TV, est déjà en ligne. Donc ce qui était retransmis à la Tech Days TV, c'était toute la journée, la plénière le matin, et toutes les sessions qui avaient lieu dans l'amphi grand bleu, donc le plus grand amphi, l'amphi bleu, pardon, pas grand bleu, l'amphi bleu.
Oui, grand bleu, c'est à Issy-les-Moulineaux.
Donc l'amphi bleu, donc toutes les grosses sessions, les grosses keynotes sur Windows 10, sur Coding for Fun, sur, et compagnie, quoi. Et déjà, tout ça, c'est déjà en ligne. Les autres sessions qui ont été filmées, donc seront en ligne très bientôt. Je ne sais pas quand encore, mais très bientôt. Donc voilà pour les Tech Days. Hein. Donc Stéphane, tu fais beaucoup d'administration des systèmes, de gestion des clients. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui beaucoup à Configuration Manager.
Oui.
Ça fait combien de temps que tu es sur ce sujet dans ton métier, dans tes différents métiers en fait que tu as eu ?
Oh là là. Alors ça fait très longtemps puisque j'ai commencé à faire de l'exploitation. J'ai pas commencé par ça, mais il y a une certaine époque avant de rentrer chez Microsoft, j'ai fait de l'exploitation de différents parcs. Donc c'est un sujet vraiment qui me concerne de très près. Quand je suis arrivé chez Microsoft. Ça va peut-être dater un petit peu, mais c'était le tout début de MOF, c'était tout le début de la déclinaison, on va dire, dit-il, à la sauce Microsoft. Et puis ensuite, Microsoft a complètement sauté à l'intérieur, dit-il, sauté dans les évolutions, dit-il, a influencé la manière dont dit-il pouvait évoluer. À travers ce qu'on avait déjà mis à l'intérieur de MOF, donc le côté un peu itératif, le côté essayez pas d'atteindre l'excellence tout de suite, mais allez-y par itération successive. Tous ces éléments-là, c'était des choses que j'ai pu retrouver en entrant chez Microsoft. Je suis rentré donc dans la même entité que toi, chez ce qu'on appelait MCS, hein, Microsoft Consulting Service, où j'ai eu la chance de travailler sur des très gros projets, notamment sur certains à faire la préparation de l'exploitation des solutions qui étaient conçues par mes autres collègues. C'est un sujet qui me préoccupe et il y a quelques années, on avait communiquer des chiffres en disant ben voilà, on remarque que dans les budgets informatiques, grosso modo, on consacre à peu près 70% à la maintenance de l'existant, contre 30% pour faire des nouveaux projets. Et donc, quand tu analyses à froid ces deux pourcentages, tu te dis, ben, si on peut avoir un effet de réduction des coûts sur un budget qui représente 70% du budget de l'informatique, ça peut être assez intéressant, ça va être beaucoup plus intéressant que d'être pressurisé sur les projets, à dire faites-moi le projet le plus rapidement possible, faites-moi le projet avec le minimum de ressources. Si on peut gagner plutôt des ressources pour faire des choses plus intelligentes et passer d'un mode réactif à un mode proactif dans l'exploitation au quotidien, ce serait une bonne solution, c'est une bonne démarche. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse depuis très 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 longtemps.
Oui, et puis on sait bien que le métier principal des IT, c'est de faire marcher l'existant.
Mais oui, c'est le côté peut-être un peu ingrat. J'entendais dans une, je ne sais plus si c'était dans une des conférences ou quelque chose, des tech days ou ailleurs, un développeur se plaindre de mauvaise image du développeur. Mais je pense que l'exploitant a aussi une mauvaise image. On a une connotation où en France, quand on parle de faire de l'exploitation, c'est moins noble que de faire du projet. Je l'ai bien vécu quand je suis passé de la partie projet avec le consulting à la partie PFE, donc à la partie support chez Microsoft. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de l'exploitation? Quel intérêt? Bon, non, c'est très intéressant de faire de l'exploitation et d'essayer de mieux organiser l'exploitation, de faire en sorte que ça marche mieux et que le service rendu à l'utilisateur, c'est quand même le but, soit le meilleur possible.
Oui, et puis quand on voit les évolutions actuelles, on n'est pas du tout dans le poussiéreux et les techno, quoi. On est dans le cloud, on est dans le mobile, on est dans le bring your own device et tout ça. Donc c'est plutôt des métiers sympas, je trouve.
Ah oui, ça, surtout que là, en ce moment, ça évolue quand même beaucoup, ça évolue très vite. On voit par exemple le rythme auquel les versions de Configuration Manager ou de son prédécesseur SMS sortaient il y a quelques années. Maintenant, on avait annoncé qu'on sortirait quasiment une version par an de Configuration Manager. On ne va pas tout à fait respecter ce planning-là. Mais par contre, quand on regarde l'évolution de Microsoft Intune, on a chaque mois maintenant des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc la possibilité de coller au marché quand une nouvelle version, mettons par exemple d'un Android ou d'un iOS sort, eh bien on a assez rapidement sur Intune la possibilité de gérer ces systèmes d'exploitation parce que il faut évoluer au rythme auquel le reste des produits que l'on doit gérer évolue.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs il y a eu une mise à jour qui est sortie la veille des Tech Days.
Oui.
Et franchement,
pour tous ceux qui devaient parler d'Intune, c'était un peu dur.
Voilà,
oui.
J'ai eu peur pour ma plénière. Mais tout s'est bien passé, ça n'a pas impacté les appareils sur lesquels qui étaient gérés par Intune pour mes démos que je devais montrer, heureusement. Mais j'ai un peu transpiré la veille.
Ah ben tu es dans la situation de nos clients qui disent Microsoft sort un service pack, un correctif ou je ne sais quoi, j'hésite un peu à le passer rapidement, je vais attendre un petit peu quelquefois. Non, aujourd'hui quand même globalement on a de moins en moins d'erreurs parce que on fait de plus en plus attention et on a un environnement qui est aussi de plus en plus standardisé à gérer. Donc, quand on fait des modifications, on a peu de risques de faire des modifications qui sont mauvaises et qui ont un impact sur ce que l'on gère.
Donc, tu parlais de System Center et de Configuration Manager et puis de son ancêtre SMS.
Ouais.
Deux mots d'historique sur ce produit qui existe depuis maintenant presque plus de 20 ans d'ailleurs.
Ben, plus de 20 ans, oui, puisque j'ai fait un billet en novembre dernier pour fêter les 20 ans de la sortie de ce qui allait devenir System Management Server, donc SMS, pour parler plus rapidement. Donc c'est un produit que j'ai connu bien avant de rentrer chez Microsoft, puisque je travaillais dans une société de services à l'époque. Et en 93, un de mes clients recherchait un produit de télédistribution et m'avait chargé de faire une petite analyse comparative. Comme je travaillais chez ce partenaire, j'ai contacté Microsoft en disant « Est-ce que vous auriez quelque chose ?» Et puis là, on nous a dit « Ah ben, on a quelque chose dans les cartons. Si vous voulez, vous pouvez tester. Là, on a une version bêta qui commence à être un peu prestable. Donc, allez-y, testez cet élément-là. » Qui, pour ce que l'on demandait à faire en 93, qui est quand même assez limité à l'époque, correspondait assez bien à ce que cherchait le client, ça répondait bien au cahier des charges que le client avait dressé. Mais malheureusement, à l'époque, on n'avait pas de calendrier précis de sortie de cette version de ce qu'allait devenir SMS. Et le client nous a dit, non, moi je ne peux pas attendre éternellement que Microsoft sorte ce produit. Donc on est parti avec un produit concurrent, qui à l'époque était un produit de Symantec. J'ai ensuite exploité cette solution-là pendant quelques années. Après avoir fait le projet, je l'ai exploité. Mais sans quitter d'un œil tout ce qui se faisait autour d'SMS, puisque je travaillais également chez d'autres clients, où là, j'avais réussi à mettre en place du SMS, précisément du SMS 1.2 majoritairement, puisque les premières versions 1.0, 1.1 ont été rapidement remplacées par la version 1.2. Et c'est en faisant un projet sur SMS 1.2 chez un client que j'ai rencontré des consultants de Microsoft qui venaient aider le client à faire son projet, migration NT4 à l'époque.
Il y avait beaucoup à l'époque.
Il y avait beaucoup, et avec la phase où vraiment NT4 commençait à vraiment prendre des parts de marché de plus en plus importantes, parce qu'il faut quand même se souvenir que Microsoft à l'époque était quand même challenger. Les premières versions d'SMS que je mettais en œuvre, pas en 1.2, mais précédemment, c'était majoritairement dans des environnements netware. Oui, on travaillait avec NetWare à l'époque. Oui. Sur SMS, on avait la capacité d'utiliser les services de NetWare. J'ai mis en œuvre SMS 1.2 chez ce client. Je l'ai exploité pendant quelques temps. Et puis, à un moment donné, j'ai recroisé ces consultants. En tant que partenaire, j'ai eu le droit d'assister. C'était une des rares sessions qui était ouverte aux partenaires, aux événements techniques qui avaient lieu à Seattle. Et puis, c'est là où j'ai vraiment rencontré mon futur patron qui m'a embauché pour rentrer chez Microsoft. Donc, je suis rentré chez Microsoft en août 99. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'était au moment des SMS 2.0. SMS 2.0, c'était une telle catastrophe en termes de stabilité que le mois où je suis rentré, le directeur du support de l'époque, qui était Roger Abessera, avait envoyé un mail à tout le monde en disant « Arrêtez de vendre SMS !» parce qu'il croulait sous les problèmes, il croulait sous les incidents. Et à ce moment-là, j'ai plutôt fait des projets autres que SMS. Je me suis un peu mis à l'abri, je l'avoue. Et j'ai recommencé à travailler sur SMS à partir de la version 2003, qui, elle, était très, très stable et a vraiment commencé à représenter des parts de marché de plus en plus importantes, commencé à être largement utilisé chez tous les clients.
Ouais, et donc SMS, il y a un jour où c'est devenu System Center. Enfin, ça a été
après SMS 2003, donc après la version suivante, après SMS 2003, on a commencé à avoir un discours unificateur de tous les produits d'administration système, puisqu'on avait racheté en même temps la technologie d'Opération Manager. Donc on a dit, on va faire une gamme de produits qui va s'appeler System Center. Et on a fait System Center Configuration Manager 2007, avant de changer l'ordre dans lequel aujourd'hui le marketing parle des produits en disant c'est System Center 2012 Configuration Manager. C'est des questions un peu sémantiques, mais ça n'a pas de grosses conséquences, si ce n'est en termes de licence, puisque les clients qui aujourd'hui achètent, par exemple, un System Center pour les serveurs, pour gérer les serveurs, achètent une licence qui leur permet d'utiliser aussi bien Configuration Manager que Opération Manager, qu'Orchestrator, Service Manager, et j'en passe encore, je ne mets pas Data Protection Manager, etc. Donc c'est cet effet de gamme qui existe aujourd'hui, qui est très, très intéressant avec toute la gamme System Center, parce qu'il y a vraiment, on va dire, une unité, au moins dans l'interface, des choses qui se ressemblent, qui ressemblent à quelque chose que beaucoup de gens connaissent, qui est l'interface d'Outlook, pour ceux qui utilisent Outlook. Donc des principes de base d'interface graphique que l'on retrouve maintenant sur toutes les gammes de produits, que ce soit System Center, que ce soit dans Office ou ailleurs, on retrouve des principes généraux qui sont très, très intéressants pour l'apprentissage, le premier contact avec les produits. On n'est pas perdu quand on rencontre un logiciel comme ça de la première fois.
Donc chez Microsoft, tu as travaillé chez MCS au début, hein, donc au consulting. Moi aussi, j'y étais déjà à l'époque. Depuis 2 ans. Deux ans et demi. Ouais.
J'avais
en janvier 97. Bon, je suis à peine plus ancien, mais bon, on est à peu près de la même génération.
Mais tu fais partie de ceux que j'admirais, parce que quand je suis arrivé, on m'a donné une petite chemise, une chemise que j'ai toujours, hein, dans laquelle, dans le dos, il y avait la liste des 100 alias des gens qui étaient les 100 premiers consultants chez Microsoft, et il y avait ton alias sur cette liste. Faudrait que je fasse le recensement un jour de ceux qui sont encore chez Microsoft. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis depuis. Mais moi, je n'ai pas eu ce privilège d'être dans les 100 premiers. Je suis arrivé juste après, un tout petit peu après.
Ça ne rajeunit pas tout ça. Et puis, après, tu as quitté le consulting, et on va reparler après de ton métier de PFE. Mm-hmm. Mais entre-temps, récemment, on s'est recroisé à l'occasion de l'écriture d'une série de bouquins sur Windows 8 qui n'ont pas eu un succès phénoménal en librairie, disons, mais qui ont été plutôt sympas à écrire. Il y a du contenu intéressant, et toi, tu as participé au bouquin qui s'appelle Déploiement, hein, de Windows 8.
Oui, alors précisément, oui, il y avait quatre livres, hein, sur la sécurité auxquels tu as participé. Il y en avait un sur la virtualisation et un sur le développement. Je pense que c'est celui qui a eu peut-être le plus de succès, parce que le développement sur Windows 8 était quand même quelque chose d'un peu différent de ce que l'on avait l'habitude de faire précédemment. Et puis, je me suis occupé de 3 chapitres consacrés à Configuration Manager dans le bouquin sur le déploiement de Windows 8. 3 chapitres qui restent toujours valables, c'est-à-dire que même si le bouquin aujourd'hui, on parle de déploiement Windows 8.1 ou déploiement, quand on va commencer à aborder déploiement de Windows 10, on aura les mêmes problématiques que ce que j'ai pu décrire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis rappelé la manière dont je pouvais faire un projet chez MCS par rapport à Configuration Manager, donc de réutiliser toute la méthodologie que l'on a l'habitude d'utiliser chez MCS, et de décrire un pseudo-projet fictif d'une entreprise qui aurait voulu déployer Windows 8, en se disant, je commence à faire ma sorte de cahier des charges. Dans le jargon Microsoft, on appelle ça Vision Scope, donc j'ai essayé de ne pas utiliser trop de jargon Microsoft dans le bouquin pour rester le plus français possible. Mais c'est un bouquin qui, par rapport, Jean-Sébastien notamment m'avait fait passer celui qu'il a écrit sur Configuration Manager 2012. On a une complémentarité, parce que je ne suis pas passé dans le mode à faire le recensement exhaustif de toutes les fonctionnalités. Je me suis vraiment concentré sur « je veux déployer du Windows 8 avec Configuration Manager, je veux monter mon infrastructure, à quoi il faut que je pense pour faire cette opération ?»
D'accord. Donc on mettra les références de ce livre sur l'article.
Mm-hmm.
Puisque s'il est toujours d'actualité, ça va forcément.
C'est l'avantage d'un projet. On peut presque faire recherche en place à n'importe quelle période. On va trouver toujours les mêmes phases, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'on doit recenser comme information. Ces éléments-là, quelle que soit la version de Windows que l'on veut déployer, quelle que soit la version de Configuration Manager que l'on veut monter, on se posera toujours les mêmes questions. On aura peut-être des réponses différentes à l'avenir, mais pour l'instant, les questions sont les mêmes.
Exactement. Et donc maintenant, tu es PFE. Alors PFE, ouais. C'est le terme anglais.
Ouais, c'est premier fil d'ingénieur en anglais. Alors, on le traduit généralement en français par ingénieur conseil grand compte.
Voilà, c'est peut-être
plus clair. L'idée, c'est que les PFE, c'est la partie du support qui intervient auprès des clients qui ont des contrats de support chez Microsoft.
Voilà, donc,
Les contrats premiers. Si on veut bénéficier de l'expertise des PFE, eh bien, il faut avoir un contrat premier pour pouvoir accéder à la possibilité de faire ces interventions. Donc, le métier de PFE, c'est un métier qui est assez différent du métier de consultant, même si j'avais fait des missions qui étaient assimilables à des missions de PFE quand j'étais chez MCS. Et de la même manière, je continue à faire... je ne vais pas le dire trop fort, quelques projets en étant PFE. On est censé, parce que déjà on travaille sur un nombre limité de produits, moi je travaille sur Configuration Manager et sur Opération Manager, on est censé avoir la plus grande expertise qui puisse exister, en dehors peut-être des développeurs du produit et en dehors des gens du support qui ont accès au code du produit. Donc on est censé être l'expertise sur le produit et on vient aider le client à résoudre ses problèmes quand il en a, mais surtout on essaye dans la démarche du support Microsoft lors de la création de cette équipe PFE, on essaye de passer beaucoup plus dans un mode proactif plutôt que réactif. Donc on essaye de devancer les problèmes, de donner des conseils aux clients pour éviter qu'il n'ait des problèmes. Le but pour nous, il est clair, c'est d'éviter que les clients nous appellent, éviter qu'ils nous appellent en disant « au secours, il y a le feu, venez vite éteindre le feu ». Ce qui était un peu l'image que j'avais des PFE quand j'étais côté consulting. Je connaissais très bien, on discutait très souvent, Marc de Ruffray, qui est aussi un ancien chez Microsoft, et je le voyais comme une sorte de pompier avec son gyrophare sur le toit, partir aux quatre coins de la France, voire aux quatre coins de l'Europe, pour aller éteindre le feu. Cette activité-là, réactive, elle existe toujours. On a de temps à autre des crises. Là, lundi dernier, je suis allé éteindre le feu chez un client, mais c'est vraiment marginal maintenant. On est beaucoup plus dans le mode où on va intervenir, par exemple, dans les phases de projet avec MCS pour essayer de faire en sorte que ce qui est conçu avec MCS, ça soit quelque chose qui tienne compte des retours d'expérience que l'on peut avoir de la gestion des autres clients qui utilisent le produit. Et éviter surtout une situation qui existait notamment quand je suis passé PFE, on avait très souvent des situations où MCS finissait son projet, on passait la main au support, et puis le support faisait ce qu'on appelle très couramment une revue de supportabilité. C'est pas le terme exact, mais peu importe. Et dans cette revue de supportabilité, on pouvait avoir des situations très délicates pour les clients qui consistaient à leur dire « c'est bien ce que vous avez fait, mais c'est pas supporté ». Quand on s'en aperçoit au moment où on vient juste de déployer la solution, c'est désagréable. Quand on s'en aperçoit un petit peu plus tard, au moment où le client soumet un incident et qu'on lui dit « désolé, mais ce que vous avez utilisé pendant des mois, ça a beau marcher, c'est pas supporté », c'est encore plus désagréable. Donc là, on est maintenant vraiment dans les phases projet avec MCS, on intervient pour arriver à faire en sorte qu'on ne vive pas ces situations. On peut avoir des projets qui conduisent à faire des solutions non supportées, c'est tout à fait acceptable. Simplement, il faut que le client en soit conscient et qu'il sache jusqu'à quel degré ça présente un risque de ne pas être supporté. Il y a eu une époque où, par exemple, beaucoup de clients utilisaient des solutions pour faire de la tolérance de panne sur les cartes réseau, tant que ce n'était pas une solution Microsoft, ce n'était pas une solution supportée. C'était le fournisseur de la solution qui était censé supporter cette possibilité. À partir du moment où maintenant, dans Windows, on a nativement cette possibilité-là, ben nous, on supporte la possibilité de faire de la tolérance de panne sur les cartes réseau parce que c'est une fonctionnalité de Windows.
Et oui, on appelle ça le teaming et notre collègue Arnaud est un grand fan de teaming.
Oui. Mais on peut imaginer, c'est très simple, que Microsoft n'ait pas la possibilité de reproduire dans ses labs la totalité de toutes les solutions que tous les clients utilisent. Donc il y a une limite, qui est une limite presque juridique à un moment donné, qui fait que ben on ne peut pas tout supporter, on supporte que ce qu'on est capable de reproduire dans nos labs. Avec très souvent aussi ce qu'on appelle des prises en compte d'incidents en best effort, où on ne va pas non plus jeter le client lorsqu'il ouvre un incident simplement parce qu'il a une solution non supportée, on va l'aider à résoudre son problème quand même.
Ok, donc si vous nous écoutez et que le métier de PFE vous intéresse...
Oui, alors il y a
plus... embauche, je ne sais pas.
Oui, en ce moment, il n'y a pas de poste ouvert sur Configuration Manager ouvert. Parce que sur Configuration Manager, on a bien dopé l'équipe. Il y a eu quand même, on va dire, 4 à 5 personnes qui sont arrivées l'an dernier. Hein, à peu près dans une année complète, il y a eu 4 à 5 personnes qui sont arrivées. Par contre, il y a des postes ouverts sur Opération Manager parce que là, on est un petit peu en sous-effectif en ce moment. On souffre un peu, donc il suffit de regarder. Je pense que dans 6 mois, dans un an, à nouveau, on sera en phase de recrutement, certainement sur Configuration Manager parce que l'activité PFE se développe assez régulièrement. Et puis il y a bien d'autres postes que PFE Configuration Manager, il y a bien d'autres équipes aussi qui recrutent et qui continuent à se développer.
Voilà, et pour le recrutement, il faut se diriger vers le site de Microsoft France et toutes les informations sur les postes ouverts se trouvent sur le site. Si on revenait un petit peu à nos moutons Configuration Manager et notamment où on en est aujourd'hui avec Configuration Manager. Donc on est en version 2012 R2. Donc la version qui est synchronisée en gros avec les dernières versions de Windows 8.1 qui permet de faire une liaison avec Intune. Et j'aimerais directement arriver à cette intégration avec Intune puisque c'est
la grosse évolution, c'est
de l'évolution du produit, oui.
Oui, c'est vraiment les grosses évolutions. Grosso modo, quand 2012 est sorti, quand Configuration Manager 2012 est sorti, Intune n'existait pas véritablement, pour autant que je m'en souvienne. Et par contre, au moment de la sortie de Configuration Manager 2012 et R2, Intune était déjà présent. Intune étant présent pour... on va dire dans le positionnement des deux produits, offrir une offre plutôt sur Internet, une offre cloud de gestion d'un parc d'ordinateurs, et gérant surtout un certain nombre de périphériques qui sont majoritairement présents sur Internet, qui sont les téléphones, les tablettes. Donc cette solution Intune qui existe en autonome, au moment de la sortie de R2, on a proposé la possibilité de jumeler les deux solutions et de faire en sorte qu'à travers simplement la console Configuration Manager 2012 R2, on ait la capacité de gérer les machines qui sont gérées à travers Intune. Donc on fait un petit peu vis-à-vis d'Intune la même chose que l'on fait par exemple sur la gestion des correctifs à travers WSUS. On encapsule la gestion du produit pour proposer d'utiliser uniquement la console Configuration Manager pour tout faire, que ce soit de la gestion des PC à l'intérieur de l'entreprise ou la gestion des téléphones ou des tablettes à l'extérieur.
Oui, ça a tout à fait du sens d'utiliser les deux, puisqu'on a d'un côté des PC, des choses qui sont la plupart du temps connecté au réseau interne de l'entreprise, donc ça a du sens de le gérer avec Config Manager. Mm-hmm. Alors que d'un autre côté, on a des mobiles, voire des machines personnelles, que ce soit des PC portables ou des téléphones ou des tablettes, qui sont plus souvent connectés au réseau Internet qu'au réseau interne de l'entreprise. Donc ça a tout à fait du sens quoi, d'avoir deux côtés comme ça d'administration, un côté vraiment cloud public sur Internet et puis de l'autre côté un système comme avant quoi, sur le réseau interne de l'entreprise. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Sur
Bah c'est, oui, en termes de communication, c'est un peu logique, même si les entreprises qui commencent à s'intéresser à la gestion des téléphones, à la gestion des tablettes ou à la gestion des périphériques personnels qui viennent se connecter à l'intérieur de l'entreprise veulent avoir une solution, veulent avoir quelque chose qui permette de contrôler l'accès. Et de contrôler l'accès, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est aujourd'hui, comme on le sait, majoritairement par ce canal-là que la plupart des problèmes rentrent dans le système d'information des entreprises. C'est par le biais aujourd'hui des téléphones qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas bien gérés, qu'un certain nombre de fuites d'informations ou un certain nombre de virus rentrent à l'intérieur des entreprises. Donc c'est le sujet majeur sur lequel il faut travailler actuellement. Je pense que la gestion des flottes de PC à l'intérieur des entreprises, ça pose plus trop de problèmes aujourd'hui. Tout le monde a une solution. Majoritairement, beaucoup de gens utilisent Configuration Manager, mais c'est quelque chose maintenant, comme on disent les Anglais, de mainstream. Par contre, la gestion des téléphones, c'est une préoccupation de plus en plus grande parce que c'est aussi le domaine dans lequel il y a le plus d'évolution. Il y a une perception qui est sous-évaluée du nombre de clients qui accèdent à des informations du système d'information à travers ces périphériques-là. Et c'est un domaine dans lequel il faut absolument avoir les outils qui vont bien pour pouvoir les gérer. Et Intune est un bon outil pour pouvoir gérer ces périphériques.
Exactement. Donc, on appelle ça du MDM, du Mobile Device Management, donc gestion de périphériques mobiles.
Oui. Dans ce MDM, en fait, on fait essentiellement des opérations qui consistent à restreindre les possibilités de l'appareil, comme on le fait à l'intérieur du parc, notamment à travers des GPO, des choses comme ça. On essaye de configurer la sécurité des périphériques qui sont utilisés de manière à ce qu'ils soient sécurisés. On ne s'occupait pas jusqu'à maintenant, dans cette partie MDM, on ne s'occupait pas véritablement de gérer les applications. On en arrive aujourd'hui avec cette notion de MAM, donc de gestion des applications qui sont déportées sur ces périphériques, et donc de mettre à disposition des applications métiers qui aujourd'hui sont développées pour être utilisées en entreprise à partir de périphériques qui sont à l'extérieur.
Ouais, donc on a la possibilité par ce biais-là de gérer des applications aujourd'hui dans la pratique Office. Donc toutes les applications de la gamme Office qu'on trouve sur iOS et sur Android, mais également les applications, on a fait des petites applications, je ne sais pas si tu as vu ça, des petits visualisateurs, par exemple un afficheur de PDF, un afficheur d'image, un lecteur de vidéo, même un navigateur web qui sont fournis par Microsoft, qu'on peut donc télécharger, les installer via Intune ou etc., et qui sont gérés, et qui font partie de l'ensemble des applications qui vont être gérées par l'entreprise, et donc qui vont permettre une expérience riche, avec des applications, avec des vraies fonctionnalités, quoi, qui partagent un même environnement géré.
Et c'est plutôt, l'idée, c'est de créer une sorte de bulle, hein, c'est de dire, OK, vous avez le droit d'utiliser Facebook, vous avez le droit d'utiliser Twitter sur votre téléphone personnel, ça paraît la moindre des choses quand même qu'on puisse donner à l'utilisateur, mais si on envoie un document un peu confidentiel via la messagerie, on voudrait que ce document confidentiel, si c'est un PDF, les gens ne fassent pas du copier-coller pour aller tweeter immédiatement les informations confidentielles ou aller divulguer les informations à leurs amis via Facebook. L'idée, c'est de créer une bulle de sécurité dans laquelle les données sont protégées, ne peuvent pas sortir. Et surtout, de faire en sorte que ces données qui sont protégées, si le périphérique est perdu ou volé, on puisse facilement les contrôler et donc les effacer de manière sélective. On va pouvoir dire, ou quand un utilisateur d'un téléphone quitte une entreprise, pouvoir dire sélectivement, je voudrais effacer les données de l'entreprise qui sont sur le téléphone personnel de l'utilisateur. Chez Microsoft, en France, on a la chance d'avoir des téléphones qui sont fournis par Microsoft, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Les gens s'achètent leur propre téléphone et ont des données de Microsoft sur leur propre téléphone. Lorsqu'ils quittent Microsoft, il faut éviter que les données de Microsoft ne puissent rester sur les périphériques en question. Donc, on met en place ces solutions en interne chez Microsoft. On la met de plus en plus en place chez les clients également, parce que c'est une demande forte.
Ou même en libre service, c'est-à-dire que quand l'utilisateur perd un téléphone ou casse un téléphone, à partir du nouveau, du prochain téléphone, il pourra... depuis le portail d'entreprise, dire ben voilà, je supprime cet ancien téléphone du système de management et en même temps, ça, si le téléphone est toujours opérationnel, ça supprimera les données professionnelles du téléphone. Mmh. Donc c'est vraiment des fonctionnalités qui sont très appréciées, enfin, qui sont nécessaires dans le monde professionnel.
Et qui sont aussi des préoccupations que l'on ressent au niveau même des concepteurs des systèmes d'exploitation des téléphones ou des tablettes. C'est-à-dire qu'en fonction des différentes évolutions des versions de ces systèmes d'exploitation, on sent que le système d'exploitation lui-même expose un certain nombre de fonctionnalités pour permettre ces fonctionnalités-là d'effacement sélectif ou d'effacement complet à distance, chose qui n'était pas du tout réfléchie il y a quelques années, alors qu'on savait très bien que les téléphones se perdaient ou étaient volés très très fréquemment.
Et notons également qu'il y a également ce qu'on appelle en anglais, c'est un terme assez moche, c'est un wrapper, une enveloppe si on veut. Pour l'instant qui n'existe que pour iOS, je ne sais pas s'il y a des plans pour le faire pour Android également, mais qui permettra, qui permet aujourd'hui d'ailleurs aux développeurs d'applications métiers pour iOS de les envelopper dans cette espèce d'enveloppe de façon à les faire entrer dans la partie managée, c'est-à-dire les protéger, ces applications, comme si elles étaient comme les applications Office aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir recevoir ces applications, ces stratégies applicatives et être protégées par ces stratégies. Mmh. Donc faire partie du côté professionnel du téléphone et non pas du côté personnel.
Mmh. Donc c'est plus... il est important que les données d'une application qui sont stockées de manière volatile sur les téléphones, de manière temporaire, on a besoin quand même de récupérer quelques données qui sont intéressantes pour le fonctionnement de ces applications. Il est important que ces données-là soient protégées, c'est-à-dire que si on les met, par exemple, sur une SD card qui est à l'intérieur du téléphone, il faut que au moins les données en question soient cryptées, qu'on ne puisse pas décrypter les informations facilement. Bon, c'est un problème de temps, hein. Toujours, on arrivera toujours à décrypter les informations, mais si on sait que le téléphone a été volé et qu'on a déjà effacé les données du téléphone, on est un petit peu plus serein sur ces informations volatiles qui étaient présentes sur le téléphone.
Tout à fait. Donc ce sont des fonctionnalités dont on parle là, qui sont dans Intune, dans Microsoft Intune. Est-ce qu'on les retrouve à l'identique dans Config Manager ou est-ce que c'est Config Manager qui, relié à Intune, utilise ces fonctionnalités par Intune?
Alors, on n'a pas nativement dans Configuration Manager ces possibilités-là. Ce que l'on fait, c'est qu'on connecte la gestion qui est faite par Intune dans Configuration Manager de manière à pouvoir gérer les périphériques mobiles à travers Intune depuis Configuration Manager. On fait cette gestion-là par la connexion des deux systèmes en mettant à contribution ce que Intune sait faire pour le faire à travers la console Configuration Manager.
Voilà, exactement. Donc, ce qui a tout à fait du sens puisque ces périphériques sont plus souvent connectés à Internet qu'au réseau interne de l'entreprise.
Tout à fait, oui.
C'est normal de passer par le cloud public.
La difficulté que l'on avait, qui commence à être résolue côté Configuration Manager, c'est que Intune évolue très rapidement. Là, maintenant, on est sur un rythme mensuel de nouvelles fonctionnalités. Donc, je pense qu'on peut l'annoncer, qu'on va de plus en plus pouvoir intégrer les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux supports qui seront supportés par, par Intune à l'intérieur de Configuration Manager. On va pouvoir suivre le rythme très rapide de modification de, des versions d'Intune et des possibilités d'Intune dans la console Configuration Manager. Dans le passé, on était un petit peu obligé d'attendre que les équipes de Configuration Manager fassent des correctifs, fassent des composants supplémentaires qu'on greffait sur Configuration Manager pour pouvoir tenir compte des évolutions d'Intune. Maintenant, on va avoir une possibilité vraiment de suivre quasiment les évolutions d'Intune.
Ça, c'est super, ça. Il faut dire également que quand on a fait cette intégration entre Intune et Configuration Manager, l'administrateur qui connaît Configuration Manager mais pas Intune, pour lui, ça ne change rien. Il va voir arriver tous ces périphériques mobiles gérés par Intune, il va les voir dans la console Config Manager avec leur inventaire, etc.
Alors, tout à fait. De la même manière, moi j'ai fait de la messagerie il y a très très longtemps, à une certaine époque, mais de la même manière qu'il y a quelques années, dans Configuration Manager, on pouvait gérer certains périphériques à travers le connecteur Exchange. On n'a plus du tout besoin, quand on utilise ces fonctionnalités-là, de connaître le fonctionnement d'Exchange, ou on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement d'Intune pour pouvoir gérer, depuis la console Configuration Manager, les périphériques qui sont gérés soit à travers Exchange Active 5, soit à travers Intune et les fonctionnalités MDM ou MAM.
Voilà, donc les admins actuels peuvent tout à fait récupérer ces nouvelles fonctionnalités et ces nouveaux périphériques dans leur console. Et en même temps faire la télédistribution, c'est-à-dire envoyer des applications métiers mobiles en les rentrant dans la console Config Manager, et ces modules vont être automatiquement envoyés vers Intune pour déploiement vers les mobiles.
Et du point de vue de l'expérience utilisateur, on est en train d'unifier la manière de faire, c'est-à-dire que l'utilisateur qui est sur son poste d'entreprise gérée par Configuration Manager, qui a aussi son téléphone à côté, va retrouver les mêmes applications, va retrouver les mêmes possibilités d'aller rechercher une application pour demander à se l'installer en fonction des applications métiers diffusées par l'entreprise.
Par le portail d'entreprise ?
Par le portail d'entreprise, tout à fait.
D'accord. Donc, je vais faire un petit peu de publicité, mais allez voir la plénière du J2, du deuxième jour des Tech Days. Il y a quelques petites démos qui montrent ça d'un point de vue, d'une façon un petit peu simple à comprendre. Voilà. Dans la pratique, est-ce que ces nouvelles technologies, cette intégration de Configuration Manager et d'Intune, tout ça, on le rencontre chez les clients aujourd'hui, les clients que tu rencontres ?
Alors, Pas en grande majorité. On a, comme je te le disais, la majorité des clients chez qui j'interviens, c'est plutôt des gros clients, donc avec des grosses infrastructures. Mmh. Ces grosses infrastructures, généralement, évoluent à un rythme relativement lent. On trouve, en fait, quelquefois, des entités à l'intérieur de ces gros clients qui ont un petit peu plus de besoins, un petit peu plus de souplesse, qui mettent en place ces solutions-là un peu de manière périphérique, des solutions qui restent utilisées pour l'ensemble du parc. On a aussi un certain nombre de clients qui commencent à être couverts par le support Microsoft, ça fait quelques années déjà, mais qui commencent à s'intéresser à la gestion de leurs ordinateurs, qui commencent à avoir des problématiques où ils ont une augmentation du parc à gérer, et donc qui commencent à faire, même sans gérer les téléphones forcément, commencent à utiliser les solutions Intune pour gérer leur parc, indépendamment de la configuration par Configuration Manager. C'est aussi une possibilité. Je te parlais des recrutements tout à l'heure. On a, dans les gens qui sont arrivés l'an dernier, on a une personne qui est dédiée vraiment à cette problématique, cette gestion à travers Intune, que ça soit direct ou à travers Configuration Manager, de tout un parc de clients, ce qui prouve qu'on commence à avoir quand même pas mal de demandes.
Bah c'est très bien, donc on a fait le tour un petit peu de ce qui concernait Intune et l'intégration avec Config Manager. En ce qui concerne les clients qui vont arriver cette année, donc Windows 10 et Windows 10 et les téléphones sous Windows 10, je ne sais pas comment il faut dire d'ailleurs Windows 10 Phone, Windows 10 Mobile.
Je pense qu'on ne reviendra pas sur le terme mobile. Il y a une mauvaise image sur l'expression mobile chez Microsoft. Donc non, ça sera probablement du Windows 10 Phone. Oui. Ces clients, du point de vue de Configuration Manager, on est relativement serein qu'on va pouvoir les gérer. On va pouvoir les gérer, y compris depuis Configuration Manager 2007. On va, si on veut déployer du client Windows 10, pas du Windows 10 Phone, mais si on veut déployer avec les fonctionnalités qu'on appelle OSD pour Operating System Deployment, faudra minimum avoir un Configuration Manager 2012, alors plutôt 2012 SP1 minimum, 2012 étant une version intermédiaire. Et puis, si on veut vraiment tirer parti de tout ce que l'Operating System Windows 10 propose en termes de capacité de déploiement, de ces nouvelles manières de déployer Windows, il faudra obligatoirement passer sur la prochaine version de Configuration Manager. Et puis, très probablement, mais là, c'est vraiment lire dans le marc de café, si on veut gérer des Windows 10 Phone, il faudra probablement passer à travers Intune pour les gérer. Ça devrait être disponible au moment de la sortie de ces versions-là de Windows.
Tu parles de marc de café, là. l'évolution à long terme de toutes ces technologies, de Configuration Manager, de Intune, est-ce que tout ça va fusionner? Est-ce que tout va passer dans le cloud? Alors, est-ce qu'on va garder ce mode hybride? Parce que le mode hybride est intéressant quand même.
Le mode hybride est extrêmement intéressant. Ce qui est amusant, c'est que je me rappelle, en entrant justement chez Microsoft, on parlait déjà de menaces compte tenu de l'instabilité d'SMS 2.0. On parlait de dire que Microsoft abandonnerait SMS. Donc c'est quelque chose qui revient régulièrement. À titre personnel, par contre, je pense que là, il y a quand même un risque un petit peu plus grand aujourd'hui que Configuration Manager disparaisse un jour, au profit probablement d'Intune ou de quelque chose qui serait une évolution d'Intune. Là, c'est une considération strictement personnelle. Ça influe sur mes choix professionnels, ça influe sur les questions que je me pose sur mes prochaines évolutions. Il faut encore travailler pendant quelques années, donc il faudra bien se mettre à Intune, parce que très probablement, c'est la solution d'avenir, c'est la solution qui, dans la manière dont on peut penser la gestion d'un parc de PC, peut couvrir la totalité des solutions, peut couvrir que ça soit depuis le déploiement du système d'exploitation jusqu'à l'effacement du périphérique en cas de vol. Aujourd'hui, sur les PC, on n'a pas ces fonctionnalités-là. C'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. On pourrait très bien avoir une évolution de la manière dont on pense au déploiement des systèmes d'exploitation, de manière à ne plus penser en termes de customisation comme on le fait. On personnalise à outrance les masters dans les entreprises. C'est quelque chose qui est complètement déraisonnable dans certains cas. J'ai assisté à des projets assez faramineux où on passait énormément de temps pour personnaliser l'image qui était déployée, sur l'image Windows qui était déployée sur les postes fixes, sur les portables de l'entreprise. Oui. C'est probablement un domaine dans lequel, à une échelle un petit peu de long terme, en lisant dans le marc de café, c'est quelque chose qui disparaîtra, un petit peu de la même manière qu'aujourd'hui, il reste toujours quelques terminaux 3270, mais majoritairement, on a quand même remplacé beaucoup de terminaux passifs par des PC. On peut imaginer que dans quelques années, les entreprises mettront peut-être moins d'argent pour également avoir leur propre parc de PC et demanderont aux utilisateurs de venir avec leur propre PC. Voilà, et puis ça sera l'utilisation courante, voire peut-être, je crois, je me rappelle plus à quelle occasion Bernard Ourgan-Lyon l'avait cité, mais il avait dit l'avenir du PC, c'est le téléphone. Donc à une échelle plus ou moins proche, on peut penser, quand on voit les possibilités d'HoloLens, qu'on n'aura plus véritablement besoin de transporter des PC, qu'on pourra faire pas mal de choses à partir de notre téléphone, à partir du moment où il aura beaucoup plus de capacité mémoire, de capacité de connexion rapide vers Internet, beaucoup plus de possibilités d'interagir sans avoir un gros écran, sans avoir un gros clavier, qui puisse reconnaître, comme dans Cortana, la parole de ses utilisateurs, et qu'on n'ait plus ce... clavier, j'ai pas dit quoi, hein. Ce clavier qui est impossible à utiliser si on veut travailler rapidement.
Ok. Ben, ouais, c'est intéressant. Pourquoi pas? Je sais que j'aime bien mon clavier.
Ah ouais, mais quand même, dicter les SMS, c'est quand même beaucoup plus rapide quand il y a une bonne reconnaissance. Quand on ne confond pas merci de tonton avec merci tonton, c'est quand même pratique.
Private joke. Mais oui, en fait, moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'ouverture des choix, quoi. C'est d'avoir le plus de choix possible. Actuellement, là, il y a un petit détail qui apparaît en ce moment sur les nouveaux appareils, c'est le retour du stylet. Ça avait déjà été fait avec Samsung, le Galaxy Note. Ensuite, les surfaces, nos Surface Pro 3 ont un stylet avec une utilisation absolument géniale du stylet, notamment avec OneNote. Ça, c'est une utilisation qui est magnifique. Il faut vraiment l'essayer pour s'en convaincre.
On a quand même à peu près tous une dizaine de stylets au bout des mains.
Oui. mais les usages, enfin, ce qui est bien, c'est d'avoir le choix.
Oui.
Le vocal, dans certains cas, si on est tranquille. Ou si on est en train de marcher dans la rue, peut-être que ça a du sens. Mais dans un open space où on est plusieurs à travailler pas très loin les uns des autres, ça a peut-être moins de sens. Donc c'est bien d'avoir les choix, quoi. Tous les choix possibles.
Ah, c'est bien d'avoir le choix.
Quand on Maintenant, veut taper on est, du texte on est... sans faute et au kilomètre très rapidement, un clavier, c'est quand même l'idéal. Quand on peut programmer, faire des scripts, faire des programmes, etc. Faire du texte.
Tu sais qu'on on est l'année, là, en octobre, de Destination de Retour vers le Futur 2.
Oui.
Je ne sais pas si tu l'as noté. Donc, il y aura un événement, très probablement en octobre, qui sera assez, assez sympathique. On peut se poser la question, quand est-ce que ce qu'on a vu dans Minority Report arrivera de manière courante pour tout le monde? Est-ce qu'on aura besoin d'un clavier quand on voit... Non. Ouais. Ouais.
Dans la nouvelle, c'est différent.
Espérer que ça soit. Ouais.
On a des références.
Eh oui.
Ok, super. Bon ben voilà, qui était très intéressant tout ça. Donc, si vous voulez tout savoir sur Config Manager, la gestion des systèmes, la gestion des postes clients et des serveurs d'ailleurs, pourquoi pas. Avec Stéphane, on va mettre tous les liens concernant ces technologies-là dans l'article associé à cet épisode. Donc il y a le blog de Stéphane avec son Twitter, il y a différents blogs des équipes System Center. On a dit qu'on allait rajouter le site de Jean-Sébastien Duchesne et puis la petite référence au bouquin sur le déploiement Windows 8 que tu as coécrit avec des collègues. J'avais une dernière question à laquelle j'ai pensé pendant l'enregistrement, pendant qu'on discutait, et que j'ai oublié de te poser, Stéphane. C'était Intune et Config Manager, c'est écrit par les mêmes équipes ou ce sont des équipes produits séparées?
Ah, c'est la même équipe, ils sont dans le même bâtiment à Redmond. Après, chacun, même à l'intérieur de Configuration Manager, il y a des équipes dédiées à chaque composant, mais ils sont chapeautés par le même responsable au niveau global, oui.
Voilà, donc ils travaillent vraiment ensemble.
Ah, ils travaillent complètement ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble parce que ils ont de l'interaction les uns les autres. Alors plus dans le sens, on développe une fonctionnalité pour Intune, il faut pouvoir la mettre à disposition dans la console Configuration Manager de manière facile. Ça, c'est le sens classique. Mais un certain nombre de fonctionnalités qui sont disponibles à l'intérieur de Configuration Manager doivent probablement être développées, doivent être dans les cartons pour arriver à faire en sorte que Intune évolue également.
Voilà, donc il faut mieux voir ça comme deux émanations d'un même concept ou d'un même produit, si on veut. plutôt que deux choses vraiment séparées. Et d'ailleurs, je crois que quand on s'abonne à Intune, non seulement on a droit à 5 périphériques par utilisateur, puisque c'est une licence par utilisateur, mais en même temps, on a la licence de Config Manager. Est-ce que je me trompe ?
Alors, sur les aspects licence, je m'aventurerai plus jamais, parce que j'ai trop dit de bêtises, mais si tu le dis, oui, c'est très probable, ça paraîtrait logique.
C'est vrai qu'on n'a pas de diplôme pour parler des licences. Je crois qu'il y a 10 ans d'études. Hein, pour...
Ouais, au minimum, oui. Plus 3 ans tous les ans de reformation.
En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre, oui. C'est lire plutôt.
Ça serait logique, oui.
On avait la licence client, la CAL, je ne sais pas si on appelle ça une CAL, mais pour Config Manager, pour System Center, en fait, du moment qu'on avait l'abonnement Intune. Donc, merci beaucoup, Stéphane.
Mais je t'en prie. Merci à toi.
C'était un plaisir. Et puis, à très bientôt. On se retrouve à très bientôt pour d'autres sujets.